Bon jeudi 6 mars avec Colline, il est midi 2, voici toute l'info prête chez vous, c'est avec Fabien Gazot. Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. Les négociations s'achèvent chez Michelin concernant les conditions de départ des salariés licenciés avec la fermeture de l'usine Choletaise. Grégory Blanc, le sénateur du Maine-et-Loire, a interpellé la ministre hier. À la veille de la Journée internationale des droits de la femme, l'Institut CGT d'Histoire sociale des Deux-Sèvres organise une conférence ce vendredi soir à Niort sur le droit de vote. Après une édition 2024 gâchée par la météo, les Highland Games se tournent vers 2026 avec des ambitions raisonnables. Au cœur d'une tournée qui marche très bien avec son spectacle Le Sens de la Vie, Alexis Le Rossignol joue à Neuilly-les-Aubiers samedi soir dans le cadre du Festival de l'Humour. Les salariés de Michelin sont fixés sur les conditions de leur départ liées à la fermeture de l'usine à Cholet. Il faut retenir principalement une prime de départ à 40 000 euros plus 1 250 euros par année d'ancienneté. Les représentants syndicaux exigeaient 70 000 euros plus 300 euros par mois d'ancienneté. Les espoirs sont donc déçus alors que la première vague de départ est annoncée pour juillet. Hier au Sénat, lors des questions au gouvernement, le sénateur du Maine-et-Loire, l'écologiste Grégory Blanc, a interpellé la ministre chargée du travail et de l'emploi. Écoutez cet extrait.
Après l'annonce de fermeture d'une brutalité inouïe, la seule chose que dit aujourd'hui l'entreprise à ses salariés, c'est « continuez de produire à cadence soutenue, mais vous aurez à peine plus qu'à La Roche-sur-Yon il y a 6 ans, avant les bénéfices records, avant le choc d'inflation ». Michelin vient de réaliser en 2024 un résultat opérationnel de 3,4 milliards et pourtant refuse de lâcher quelques millions pour reconnaître le travail d'une vie, assurer malgré le licenciement que la maison sera bien payée. En français, cela porte un nom. Bien plus que du mépris, cela s'appelle de la maltraitance. Madame la ministre, j'ai ici le PV d'une réunion de Michelin de janvier, où Michelin évoque le démantèlement des machines qui vont être délocalisées. Michelin ne respecte donc pas la loi Florange. Comment comptez-vous sanctionner et récupérer les aides versées à Michelin ?
Le sénateur Grégory Blanc, qui s'est dit très déçu de la réponse de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, chargée du travail et de l'emploi, jugeant même sa réponse hallucinante. Écoutez justement un extrait de cette réponse.
L'État ne décide pas d'un plan social. Par contre, il joue un rôle absolument crucial pour s'assurer que tout soit fait en ce qui concerne la sauvegarde de l'emploi via un repreneur ou via la revitalisation des territoires, et il prend toute sa part à cette démarche. Et en particulier, la loi Florange que vous mentionnez, impose de chercher un repreneur pendant la durée de négociation du PSE. Dans le cas précis de Michelin, tous les moyens sont mis en œuvre pour cette sauvegarde de l'emploi. D'abord, ce que fait Michelin, faut-il quand même le rappeler, ils ont prévu 300 millions d'euros pour la reconversion des salariés. On aimerait que toutes les entreprises qui déposent des plans sociaux aujourd'hui fassent le même effort.
La ministre Astrid Panosyan-Bouvet, chargée du travail et de l'emploi, répondant au sénateur du Maine-et-Loire à propos de Michelin. À l'occasion du 80e anniversaire du premier vote des femmes, un scrutin en France, et à la veille de la Journée internationale des droits de la femme, l'Institut CGT d'Histoire sociale des Deux-Sèvres organise une conférence sur le suffragisme en Deux-Sèvres. Le combat des femmes pour le droit de vote a également été porté en Deux-Sèvres, et pas seulement à Paris et dans les grandes villes. Stéphane Weinberg pour l'Institut de recherche et de diffusion, qui émane de la CGT mais qui est indépendante du syndicat.
On va revenir sur le droit de vote des femmes et surtout les difficultés qu'elles ont pu avoir tout au long du siècle dernier et pendant près de 150 ans pour avoir accès à ce droit fondamental dans ce qu'on appelle une démocratie, choisir ses représentants ou même d'être représentant. Et une prise de conscience dans les Deux-Sèvres très rapide de l'importance d'obtenir ce droit-là.
Est-ce qu'il a été incarné par de grandes figures locales ?
Oui. Dans le département, on pourrait citer Marguerite Martin, une institutrice du département qui a écrit des livres et puis également tenu un certain nombre de conférences. Il y a eu des femmes et on les évoquera vendredi soir, évidemment. Il y a beaucoup à explorer, il y a beaucoup à chercher, à travailler. Et puis il y a surtout aussi, puisque c'est aussi à ça que servent les instituts, à partager, puisque l'idée c'est de chercher et de travailler sur toute cette histoire sociale, mais c'est aussi de la partager.
Et ce sera donc le cas ce vendredi 7 mars à la Maison des syndicats, rue Joseph Cugnot à Niort, à 19h30. Les Highland Games repartent de l'avant après une année 2024 contrastée. Il y avait beaucoup d'enthousiasme lors de la préparation des Highland Games 2024 puisque l'AGEF avait vu les choses en grand pour l'accueil des premiers championnats du monde mixtes de la discipline avec 6 pipe bands, des groupes prestigieux, un vrai plateau international pour un budget de 200 000 euros. Mais la météo a gâché la fête et le public présent, mais frigorifié le samedi, a logiquement déserté lors d'un dimanche épouvantable. L'AGEF a accusé un déficit de 65 000 euros, soit à peu près l'équivalent de la trésorerie accumulée sur les 3 précédentes éditions qui étaient la réussie. Heureusement, l'association présidée par Alain Rousselot devrait pouvoir compter sur une subvention européenne pour reprendre un peu d'air.
Finalement, elle devrait nous arriver en cours d'année, ce qui va nous permettre de repartir avec une trésorerie suffisante, puisque nous, notre souci, dans ce genre d'association, il nous faut un minimum de trésorerie pour lancer le projet, car on paie beaucoup de dépenses à l'avance, quoi. Et il nous faut 20 à 30 000 euros pour démarrer. Si on n'a pas cette subvention, on ne pouvait pas redémarrer. On ne l'a pas encore, mais on peut espérer l'avoir, il n'y a pas de raison. La subvention, elle devrait être l'ordre de 40 000 euros d'après ce qu'on nous a dit. Et je tiens à remercier l'Aglo, hein, qui nous accompagne pour ce genre de demande, parce que sans elle, moi, j'aurais jamais pu monter un tel dossier. On passe devant une commission, il faut monter un dossier solide, ce qui est normal, hein. Et on est rentré par le biais de notre action sur le tourisme au sein du territoire, ce qui est tout à fait plausible. En réalité, on développe, on joue sur ce facteur-là. On peut obtenir cette subvention grâce à ce biais-là.
2025 sera une année de transition avant l'organisation d'un nouvel événement en 2026, moins ambitieux qu'en 2024, mais toujours fidèle à l'esprit des Highland Games qui célèbre au château de Bressuire les jeux de force écossais dans un esprit festif avec musique et danse traditionnelle. Il y aura un tournoi open moins coûteux qu'un championnat. Il y aura tout de même un championnat d'Europe.
Malgré tout, on va quand même faire un championnat d'Europe féminin, comme on l'a fait d'ailleurs en 2024, parce que on pense que le sport féminin doit être mis en avant et qu'on n'a pas eu le temps vraiment de le mettre en valeur, et donc on va renouveler l'expérience. Là par contre, les risques sont un peu plus limités parce qu'on est sur un championnat d'Europe et non pas mondial, donc on n'a pas des déplacements du Canada, des États-Unis ou même d'Océanie. Donc les risques sont supportables. Ça c'est la partie sportive. La partie musicale, on va devoir faire des choix plus limités dans nos groupes, limiter les groupes des étrangers parce que il coûte cher en transport, hein. Mais il n'empêchera pas d'avoir un ou deux groupes venant d'Écosse, parce que si on fait de la tradition écossaise, il faut des groupes d'Écosse, hein. Et côté danse, on ne va rien changer, puisque nos deux écoles de danse, c'est des risques limités, puis on travaille depuis le début avec eux, il n'y a aucune raison de changer. Et enfin, le concert, on va être raisonnable, on va dire, mais il y aura toujours les ingrédients de base.
Raisonnable, mais à la hauteur des attentes, ce sera donc en juin 2026, les 13 et 14, avec encore une forte mobilisation des 250 bénévoles exemplaires, soulignait Alain Rousselot, qui salue aussi l'investissement des partenaires publics et privés. En 2025, l'AGEF et les Bokers vont participer à des animations et réaliser des démonstrations. Alexis Le Rossignol devant une salle comble samedi soir à Nueil-les-Aubiers. Cela fait déjà quelques semaines que la soirée affiche complet. Initiateur du Festival de l'Humour avec la municipalité, l'enfant du pays, aujourd'hui âgé de 40 ans, présentera son spectacle Le Sens de la Vie, qui tourne actuellement dans toute la France avec un certain succès qui fait bien sûr plaisir à l'intéressé.
J'ai de la chance, ça marche bien pour moi. J'avais quitté France Inter en me demandant si les gens allaient suivre en salle. Et en fait, non seulement j'ai repris France Inter de temps en temps en matinale, mais de plus, c'est vrai que les gens m'ont vachement suivi. Beaucoup de gens qui sont venus voir le premier spectacle sont revenus au second. Et donc, je suis content vraiment, ouais.
Alors, qu'est-ce qui fait la force du sens de la vie? C'est quoi qui plaît dans ce spectacle?
Je crois que c'est le titre, il est énigmatique. Les gens se disent, mais est-ce qu'il va nous apprendre la vie? Alors que, évidemment, je désacralise dès le début du spectacle en disant que c'est pas un cours de philo ni une séance avec le psy. Mais par contre, je pense que dans le monde qui nous entoure, là, je crois qu'on a un peu besoin actuellement de se marrer, de savoir pourquoi et comment on peut continuer à garder un peu de fraîcheur et de bonne humeur. Et donc, j'essaye par petites touches et en sortant des expériences personnelles et des anecdotes assez drôles, d'illustrer ça et de dire que on a la chance d'avoir le rire et je vais partager ça pendant une heure et demie sur scène.
Alexis Le Rossignol jouera donc devant 600 personnes à la salle Belle Arrivée à domicile, ce qui n'est pas si évident que cela.
Ce qui fait plaisir, évidemment, c'est la réponse du public, Mais comme tu dis, ouais, c'est une certaine pression parce que bon ben moi j'ai la famille, j'ai des anciens profs évidemment. Alors ils commencent à me connaître maintenant, donc c'est plus vraiment un baptême du feu. Mais c'est vrai que il y a plein de trucs que je vais dire facilement dans une salle à Strasbourg ou à Marseille. Et puis là, je me dis oui, ben je vais le dire face à des gens concernés quoi. Donc ça devient tout de suite différent. Donc ouais, il y a un peu plus de pression. Il y a même deux trois trucs que je vais enlever, je pense.
Et quand il n'est pas sur scène, Alexis Le Rossignol passe pas mal de temps à écrire. En 2021, il avait sorti un premier ouvrage, Les Voix Parallèles. Il a d'autres projets littéraires sous le coude.
J'en ai plusieurs sur lesquels je potasse actuellement. Donc voilà, je pense qu'en 2026, je vais sortir quelque chose qui va peut-être tourner autour du flan. Le flan, le dessert du flan, qui pour moi est assez marrant. Ça va être un bouquin un peu drôle sur cette pâtisserie qui est pas vraiment une pâtisserie, pas vraiment un entremets, qui est ni très beau ni trop appétissant, mais que les gens adorent. Et en ce moment, il y a une recrudescence. Et je suis en train d'écrire là-dessus. Voilà.
Et on reconnaît bien là le style d'Alexis Le Rossignol, qui sera donc sur la scène du Festival de l'Humour samedi soir à la salle Belle Arrivée à Noilly-les-Aubiers. C'est complet pour son spectacle, mais il reste des places pour Magali Ripoll vendredi soir, le Comedy Club samedi à 17h et Thomas Marty dimanche à 17h. Réservation auprès de la mairie ou sur Wiz Events. L'actualité sportive, Cholet Basket a fait un nul hier soir à Saragosse, 83-83. En match aller des quarts de finale de la FIBA Eurocup, avec une pointe de frustration car Cholet a perdu beaucoup de ballons, n'a pas toujours bien géré ses possessions et a connu du déchet au lancer franc. Tout se jouera au match retour mercredi prochain à la Meilleraie. En football, je vous rappelle que le tirage au sort des coupes départementales sera effectué ce soir sur Colline à partir de 18h30 avec Vincent Nori, les huitièmes de finale de la Coupe des Deux-Sèvres et de la Coupe Saboureau, en présence des clubs concernés et des représentants du district organisateur de ces compétitions qui pimentent la fin de saison.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Le soleil est un peu plus voilé cet après-midi, mais le beau temps demeure, d'autant qu'il fait doux, 18-19 degrés cet après-midi. Il y a moins de vent que ce matin. Demain, vendredi, les nuages et les éclaircies alternent dans une certaine douceur, 10 degrés en moyenne le matin, 18 l'après-midi. Comme aujourd'hui, le vent souffle surtout en matinée. On retrouve à peu près le même temps samedi, avant une dégradation pluvieuse dimanche. Toute l'info près de chez vous revient désormais ce soir à 18h et vous retrouverez Vincent Nori. Bon après-midi.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de